Marshall. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Le président de la CENI, l'abbé Malumalu, a présenté jeudi 30 janvier dernier à l'Assemblée nationale la feuille de route de la poursuite du processus électoral en République démocratique du Congo. L'une des propositions qu'il a soumises à la Chambre basse est d'organiser les élections au suffrage universel indirect de députés provinciaux en 2016. Entre-temps, l'opposition congolaise ayant participé aux concertations nationales rejette cette feuille de route et la qualifie de piège en vue d'aboutir à une révision de la Constitution contrairement à une des recommandations des concertations nationales. Comment commentez-vous cette affaire? Pour le faire, rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 6315. Piro et la Mégie assurent la réalisation et Mimi Kindou la mise en onde. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo avec le concours de Nicole Ngaka qui le supervise. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081 99 77 800, par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Voilà, nous avons dans ces studios Jérôme Bosso. Avant de vous proposer les interventions des uns et des autres dans un instant, Jérôme Bosso est le président de la LINELIT, Ligue Nationale pour les Élections Libres et Transparentes. Bonjour président.
Bonjour.
Voilà, vous êtes avec nous dans ces studios. Est-ce qu'on peut se faire une idée très claire sur, au fait, la fameuse feuille de route?
Oui, merci cher ami Gère de m'avoir invité. Je tiens à saluer tous les nombreux auditeurs de la radio Capi et de l'émission Parole aux auditeurs. Pour répondre à votre question, la Commission électorale nationale indépendante s'est livrée à un exercice démocratique devant la représentation nationale pour faire une proposition de sa feuille de route. On doit bien s'entendre, la feuille de route n'a rien à voir avec le calendrier électoral. Et dans cette feuille de route, la Commission a soulevé des hypothèses pour l'organisation des élections locales, municipales, députations provinciales et les élections députations nationales et présidentielles en 2016. La première option, parce que avant cela, nous, au niveau de notre société, au niveau de la société civile, au niveau de notre plateforme, agir pour des élections transparentes et apaisées, nous avons mené une étude sur la faisabilité des élections locales dans notre pays. Et nous sommes arrivés à deux options. La première option, qu'il était impossible d'organiser les élections locales, urbaines et municipales. Avant 2016, il fallait le reporter après. Et l'autre option était que oui, il faut le faire, mais en tenant compte des nombreux préalables, en tenant compte du recensement, en tenant compte des fichiers électoraux, ainsi de suite. Et de cela aussi, la feuille de route a repris la même chose. Elle a dit, la feuille de route disait, en termes d'hypothèses, la première hypothèse pour la feuille de route, il a dit oui, il faut faire les élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect en 2015, élections des députés provinciaux, ainsi de suite, et faire le reste des élections, c'est-à-dire l'élection présidentielle de l'éducation nationale en 2016. Et c'est là, ça c'est la première hypothèse. La deuxième, il a dit il faudrait faire les deux élections, la députation provinciale au suffrage universel direct, la députation nationale et la présidentielle en 2016, tandis que l'élection de députés provinciaux en 2017. Et c'est là où on doit recourir au scrutin, au suffrage universel indirect. Et là, pour deuxième option, il a dit pour direct. Mais pour première option, c'est au suffrage universel indirect. Et c'est là pourquoi et ça a soulevé autant de remous dans l'opinion et au niveau de la classe politique. C'est parce que quand on parle de suffrage universel indirect, en ce qui concerne l'élection des députés provinciaux, on est obligé de réviser la Constitution, l'article 197 de la Constitution, qui stipule que les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct et vote secret, soit par cooptation. Et c'est de là où les gens ont dit non, pourquoi cette option, il faut mettre de côté. Et l'autre élément, c'est quoi? Et quand tu dis on va faire deuxième option, deuxième hypothèse de la CENI, on va faire les élections des députés provinciaux en 2017. Pour que, on va le faire en 2016, mais ils vont élire le gouverneur, vice-gouverneur et sénateur en 2017. C'est là où on se pose la question. Ces gens ont déjà eu plus de 50 mandats. En 2017, qui vont totaliser 10 ans dans les institutions de façon irrégulière. Et ça sera normal de donner un mandat de 10 ans, 5 ans fois 2, à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et c'est là le problème. Mais on a dit, Laurent, il a présenté la feuille de route, il a dit bien sûr, mais il y a quel mode de scrutin allons-nous porter? Nous allons faire les élections, d'accord, Séné dit d'accord, je peux organiser les élections provinciales, mais sur base du fichier électoral fiabilisé. Or, nous savons que la CENI ne possède pas toutes les données pour recourir à un fichier électoral fiabilisé. La CENI sera obligée de reconstruire le fichier électoral parce qu'à l'époque de la CI, quand M. Abbé Manuel était président, quand il est parti, il n'a pas laissé les données statistiques électorales. Quand Goïmoul Dr. Ndongimoun est arrivé, il n'a pas laissé ça et chaque agent était parti avec le kit contenant les données électorales. Donc, on sera obligé de recommencer, de reconstruire le fichier électoral qui est un affaire très coûteux, qui va nous prendre beaucoup de temps. Et il a dit aussi dans son document, en ce qui concerne les élections, députation nationale et l'élection présidentielle 2016, il faut organiser sur base des données démographiques. Données démographiques, ça veut dire quoi? On doit recourir au recensement. Or, dans notre pays, depuis 1984, on n'a jamais organisé le recensement. À l'heure qu'il est, le ministre du Plan est en train de faire son recensement.
Il était annoncé déjà depuis
2014. Il y a eu M. Abbé Maluma lors de son passage en Europe, en date, il y a une dépêche de qui est parti, qui a dit que la CENI vient de. La firme chinoise vient de gagner le marché pour le recensement de la population congolaise avec 400 millions de dollars et c'est les Chinois qui vont faire cela. Et l'autre aspect, c'est le recensement administratif que la CENI elle-même présente. Mais l'inquiétude pour nous, quel contenu on va donner à tout ce recensement? Parce que nous avons besoin d'un recensement qui est capable de nous donner les résultats à temps réel pour déterminer le corps électoral. Parce que nous ne pouvons pas aller aux élections avec un corps électoral inconnu. Ça va être sujet à beaucoup de manigances et de fraudes électorales massives, il faudrait le faire. Et maintenant, le recensement. Si on fait le recensement global et général, ça va nous prendre 3-4 ans, on va dépasser le délai butoir qui est de 2016, fin mandat du président de la République. Et ça va poser des problèmes. Mais maintenant, Séné, quand il a présenté la feuille de route, il a responsabilisé les institutions. Il a dit, moi, Séné, j'ai besoin d'un budget pour faire fonctionner mes activités. De ce budget, vous allez me donner le budget de fonctionnement, vous allez me donner le budget de rémunération, vous allez me donner le budget des opérations et le budget d'investissement. Et à ce budget, il a même mis le chiffre, la CENI a demandé, a mis le chiffre, il dit, pour 2014, vous me donnez un budget de 24 millions de dollars, vous me pour les rémunérations, pour le fonctionnement, 12 millions de dollars, pour opération, 250 millions, 953 millions de dollars, investissement, 27 millions 835 347. En tout, ça fait 323 125 301 de dollars pour 2014. Il a fait son budget, la prévision budgétaire pour 3 ans 2015-2016. En tout, la CENI a besoin d'une enveloppe de 750 212 788. Et à cela, il a demandé. Il a dit, vous, je veux maintenant responsabiliser les institutions qui doivent me donner ça. Vous, Parlement, faites-moi un texte de loi qui doit me donner l'argent entre février et mars. Vous, gouvernement, faites venir l'intérieur. Faites-moi une publication des listes officielles des limitations de groupement au plus tard fin février. Vous me donnez aussi le fonds pour la sécurisation du procès électoral au plus tard mars 2014. Vous me donnez ceci au plus tard mars, ainsi de suite. Il voit ministre de la Justice. Pour les tribunaux, cours et tribunaux, pour la gestion du contentieux électoral, vous me faites ça au plus tard septembre 2014. Il a demandé à toutes les institutions. On a demandé à CENI, est-ce que dans la loi financière, est-ce qu'on a prévu cet argent? Est-ce que notre administration sera en mesure de donner en terre? Parce que pour votre information, Jérémy, quand en matière de gouvernance électorale, quand quelqu'un dit donne-moi au plus tard, c'est-à-dire ce sont des ultimatums. Il vous donne l'ultimatum. C'est un langage poli, courtois, diplomatique. Mais si vous ne le faites pas, il ne va pas le faire. Et à cela, j'ajoute un point.
Oui, rapidement,
il a fait état de lieu. Il a fait état de lieu et il a constaté qu'il y a deux arriérés. Arriérés des élections locales que nous n'avons pas organisées en 2006, tout comme en 2011. Mais il a fait aussi l'état de lieu de son administration électorale. Il a dit qu'il a fait seulement depuis juin qu'il est entré en vain jusqu'au mois de décembre. Il a fait seulement pour son administration électorale, pour la ville de Kinshasa, pour Bandundu, pour Bakongo. Tandis que le quartier en cours, c'est que CENI n'avait pas suffisamment son budget pour faire asseoir son administration. Donc, la CENI dans une possibilité de voir les élections en 2014.
Voilà, merci beaucoup Jérôme Bosson. Vous êtes le président de la LINALIT et vous êtes notre invité. On va passer de l'autre côté des standards, mais tout en résumant vos propos de tout à l'heure, vous nous avez fait une idée sur la feuille de route proposée par l'abbé Malou Malou au niveau de l'Assemblée nationale qui reprend l'état des lieux des élections et qui au fait mentionne également l'état des besoins pour les élections futures et tout en proposant également les hypothèses pour les élections, pour les cycles électoraux dans les jours à venir. Voilà, on va passer au standard en composant bien entendu si vous voulez participer à ces débats le 081 890 63 15. Kabongo, vous êtes avec nous à Kinshasa, Franklin à Bukavu et Franck de Vienne. On va vous accorder la parole dans un instant.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maurice Kabongo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Mbote Jambo à tous les occupants de la radio de la paix, c'est Confiance Kabongo.
Voilà, Confiance Kabongo, vous êtes avec nous, vous avez suivi l'actualité comme nous. La CENI a présenté sa feuille de route. Entre-temps, l'opposition congolaise et en participer aux concertations nationales rejette cette feuille de route et la qualifie de piège en vue d'aboutir à une révision de la Constitution contrairement à une des recommandations des concertations nationales. Alors, comment vous commentez-vous cette affaire? Et bien entendu, en suivant tout à l'heure aussi notre président, pardon, le président de la LINELITE qui venait d'intervenir avant vous.
En tout cas, merci beaucoup pour la parole et surtout merci pour l'intervention du président qui a été vraiment claire. Je veux bien m'aborder dans le sens de la crainte de l'opposition. Je pense que la crainte de l'opposition peut être justifiée par le fait que la plupart des propositions constituent un ensemble de piégeages réellement, ouvrant la porte à des révisions constitutionnelles qui n'ont pour objectif que la pérennisation du système de gestion actuel, non favorable à l'alternance, donc contraire à la démocratie. Ce sont des calculs très ingénieux qui s'apparentent à une malice ou qui risquent d'avancer des raisons budgétaires du manque de temps qui ont été le prétexte de la révision constitutionnelle à quelques mois des élections de 2011. Ayant occasionné la suppression du deuxième tour, juste par crainte de perdre les élections si on donnait l'occasion à l'opposition de s'allier. Maintenant, les données ont changé. La même chose risque d'être possible par la tentative qui ne vise rien d'autre que la possibilité d'avoir un nombre représentatif des personnes que l'on pourrait éventuellement manipuler pour conserver la gestion de l'appareil politique et rendre ainsi difficile la gouvernance dans le cas où s'imposerait l'alternance. Laisser passer pour la énième fois ce type de coup de force constituerait une infraction, celle de la non-assistance du peuple, de la nation et de la démocratie en danger.
Oui, oui, Kabongo, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent aussi. Oui, juste une question de relance. En fait, pour certains observateurs, la crainte ne se justifie pas dans la mesure où, en fait, il y a des articles dans la Constitution qui sont verrués.
Mm-hmm. Oui, les articles dans la Constitution qui sont verrués, mais je pense qu'avec la subtilité des gens qui sont actuellement aux affaires, ils savent comment contourner la loi. Je pense que c'est une loi qui a été faite par des hommes et il n'y a que les hommes qui peuvent la contourner. Donc ce n'est pas l'argent qui manque à ce pays pour légitimer ces institutions. C'est plutôt des personnes avec une volonté pouvant faire avancer ce pays. Moi, je pense que c'est ça.
Merci beaucoup Kabongo d'avoir appelé. Nous nous rendons tous trois à Bukavu au sud Kivu. Franklin, vous êtes avec nous. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Okapi.
Merci, merci Gilles et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonne fin de semaine à tous.
Et quel est votre commentaire?
J'ai très bien suivi l'intervention et la proposition de la CENI. Maintenant, je pense que la CENI n'a pas bien réfléchi parce que lorsque la CENI propose un calendrier qui a comme proposition les élections des députés provinciaux au mode au scrutin universel indirect, la CENI ne s'est pas rendu compte qu'elle est en train de violer la Constitution. C'est que la CENI est en train de pousser les gens à la révision constitutionnelle. Donc là, moi, je partage tout à fait le point de vue des députés de l'opposition. Mais un autre aspect sur lequel, pardon, que je voulais revenir, c'est en fait l'illégitimité des institutions provinciales dans lesquelles la CENI est en train de vouloir enfoncer les élections qui peuvent être ici des élections. Imaginez-vous un certain moment où les élections provinciales, assemblées provinciales et gouvernement provincial, toutes sont élues au mode indirect. Mais ça ne va pas renforcer la légitimité entre la population et ces institutions-là. parce que la population ne va pas se sentir et se retrouver dans les élus qui les représentent au niveau de ces institutions-là. Donc moi, je pense que ces propositions-là ne sont pas tout à fait salutaires, ne sont pas tout à fait à soutenir. Mais moi, je voudrais dire à la CENI, il faut que la CENI, parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites sur la CENI devrait éviter de constituer les lits de la révision constitutionnelle. Si la CENI veut se racheter, il doit travailler sur cet aspect-là. Deuxièmement, la CENI doit tout faire pour s'attirer la confiance entre elle et les opérateurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a une rupture de confiance. Même si la CENI vient avec n'importe quel calendrier, les opérateurs politiques ne vont pas accepter parce qu'ils n'ont pas de confiance en cette CENI-là. Et donc, je suis en train d'encourager les démarches qui sont en train d'être faites par la CENI en faisant des réunions avec les partis politiques. C'est très bien, il faut renforcer ça pour s'attirer au fait de confiance avec les partis politiques. Mais moi, je voudrais proposer...
Oui, rapidement, Franklin, il faut être très précis, oui. Rapidement.
Oui, comme nous sommes en 2014, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, et c'est la question que je voudrais vous poser à notre invité, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'en 2015, on commence par les élections municipales, locales, urbaines, en 2015, et provinciales, nationales, et puis terminées par les présidentielles en 2016, qui n'était pas pu avoir des moyens pour bien élaborer le calendrier. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Voilà, merci beaucoup, parce que vous avez beaucoup plus insisté sur l'organisation des élections au suffrage universel, hein, le indirect des députés provinciaux, mais il faudrait retenir, Franklin, que l'abbé Malou Malou et la CENI dans son ensemble a proposé, a fait des propositions contenues autour de deux hypothèses, hein, donc d'abord le suffrage universel direct et par la suite, au fait, si jamais l'Assemblée pouvait accepter cette deuxième hypothèse, on basculera dans le sens du suffrage universel indirect. C'est-à-dire les élus ne seront pas votés directement par la population, mais ce serait voté par des personnes différentes. Merci beaucoup, hein, Franklin. On va prendre Franck qui est à Vienne. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité et aussi à tous les compatriotes avec qui nous échangeons.
Voilà, Franck, votre point de vue.
Je vous en prie pour la parole. J'interviens par rapport au climat de réserve et de méfiance qui devient de plus en plus manifeste au sein des citoyens congolais avertis. Et puis, je dois aussi d'abord remercier votre invité qui a rappelé de manière synthétique toutes les circonstances qui occasionnent certaines réserves. Nous savons tous que tout est mal parti depuis 2006. Ainsi, par rapport à tout ce qui se passe, certaines questions d'ordre juridique et méthodologique doivent être éclairés pour calmer les esprits des uns et des autres. Les trois questions, selon moi, sont les suivantes. Les élections au niveau local doivent être organisées, c'est bien. Mais par rapport à combien de provinces? Par rapport aux 11 provinces actuelles ou par rapport aux 26? Les élections au niveau de toute l'étendue du pays doivent être organisées. Mais avec quel fichier électoral? Avec l'actuel fichier électoral déjà plusieurs fois remis en question ou avec un autre fichier électoral bien audité afin de nous épargner de tout climat de méfiance et de suspicion lors de ces prochaines élections? Et la troisième question, c'est celle de la crédibilité des membres du bureau de la CENI. Est-ce que cette crédibilité est vraiment de mise de part et d'autre? Je crois qu'on ne peut plus arriver à taire cette question parce que cette question risque encore de mettre beaucoup de gens mal à l'aise. Et comme interpellation, je trouve que l'idéal démocratique, l'édifice démocratique, ça doit commencer au niveau de la base, au niveau local. Mais ça devient difficile parce que au lieu de commencer cet édifice démocratique au niveau de la base, au niveau local, on l'a commencé au niveau des sommets. C'est comme si nous avons en face de nous un architecte qui veut construire un immeuble de 10 étages ou bien 20, alors au lieu de commencer par une fondation vraiment solide, il dit je commence par les derniers étages et après je vais mettre la fondation. Donc moi je trouve qu'il aurait fallu qu'on commence en 2011 par les élections locales et aller vers les élections présidentielles. Commencer par les élections présidentielles et législatives pour redescendre aux élections locales, ça pose beaucoup de problèmes d'ordre méthodologique, ça crée beaucoup d'écueil au niveau de l'application des articles de la Constitution. Et la conséquence est que pour le moment, on se trouve devant beaucoup de défis dont on ne sait pas facilement trouver des réponses par rapport aux attentes de la population. Et je crois qu'avec l'intervention de l'invité de certains compatriotes, on peut avoir des idées et si on peut nous écouter, on verra comment ça va se développer. Sinon, nous cheminons lentement mais sûrement vers un blocage. Et ça risque encore d'être plus
oui,
difficile.
Oui, Franck, pour ne pas vous couper, perturber un peu votre fil d'idée, hein, au fait, par rapport à votre dernière intervention là sur la crédibilité des membres de la CENI, on le sait tout de même que, au fait, la troisième composante a été associée cette fois-ci dans la composition du bureau de la CENI, la société civile, aux côtés de la majorité et de l'opposition. Donc, c'est ce qui veut dire que les membres qui sont qui composent en fait les bureaux et encore d'autres organes de la CENI sont issus de ces trois structures, la majorité, l'opposition et la société civile. À ce niveau, les problèmes de crédibilité ou encore de méfiance ne pourraient pas se poser.
Bon, ça c'est peut-être une manière polie de dire, mais vous le savez, messieurs les journalistes, mieux que moi, que ce bureau, sa crédibilité pose encore problème au sein de certaines sphères dirigeantes, même au sein de la majorité. Vous le savez mieux que moi, vous êtes là sur place, vous le savez. Je n'ai rien contre tel ou tel, mais vous savez que la crédibilité de ce bureau risque de poser problème. Et on ne peut pas aller aux élections avec un bureau dont la crédibilité n'est pas acceptée sans crainte. C'est aussi un des problèmes. Et je crois que tant que cela n'est pas repensé de manière directe et sincère, nous allons lentement, sûrement vers un blocage. Et ce blocage risque encore d'être assez difficile et lourd de conséquences pour notre pays.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne, en Autriche. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Omar. Omar, vous êtes avec nous? Voilà, Omar n'est pas là, alors on revient à vous.
Oui, je suis là, allô, je vous écoute.
Voilà, Omar, vous êtes avec nous, alors on vous accorde la parole.
Merci beaucoup, JR. Comme vous le savez, depuis la fois dernière, lorsque nous intervenions, nous avons soutenu l'idée d'organiser les élections au niveau local. Car moi, j'avais estimé que dans un État qui a opté pour la décentralisation, il est malaisé d'y retarder encore les élections. Mais se pose un problème, JR, par rapport à la nouvelle feuille de route élancée par la CENI. Premièrement, on parle du suffrage universel indirect et on parle aussi des reports des élections pour 2017. Je suis pour, certes, qu'on organise les élections. Mais je suis contre la méthode que la CENI veut employer. À mon avis, c'est une méthode antisociale. Premièrement, on parle de suffrage universel indirect. Ce n'est pas mauvais. Mais il faudra retenir que ce système n'est pas adapté au contexte politique actuel des Congolais. Nous sommes un pays à jeune démocratie et qui n'a pas encore une forte civilisation démocratique. Et je trouve mal qu'on puisse organiser ce genre d'élections. De deux, dans un système décentralisé, il faut que le peuple intervienne directement dans la désignation des animateurs de ces organes, d'où il faudra que les citoyens au niveau local choisissent eux-mêmes leurs dirigeants au niveau provincial. Je fais allusion aux députés provinciaux et aux gouverneurs. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit encore indirect? Ça frise quoi? Et ceux qui m'entendent me répondent. Les dépôts de 2017. J'ai lu un ouvrage de M. Raphaël Bouillet dans les dilemmes de la démocratisation dans un État post-conflit. Il démontre qu'il n'est pas important d'organiser trop tard les élections dans un État post-conflit comme la RDC. Ça risquerait de créer une crise de confiance. Parce que quel citoyen supporterait de voir des gens dont il n'a pas élu continuer à gérer jusqu'à 2017? Voilà pourquoi moi je voudrais proposer JR. Je suis un partisan du réalisme. Moi je n'aime pas être idéaliste. Je suis réaliste. Alors, puisque la CENI impose ou exige de moyens pour organiser à bon port les élections, qu'on lui laisse le temps de se préparer jusqu'en 2016. Et les institutions politiques, le Parlement, les gouvernements se mettent d'accord. Nous appuyons maintenant cette idée-là d'aller jusqu'en 2016. Et pendant tout ce temps que rien ne se passe, qu'on s'organise, car pour que les élections arrivent à la coexistence pacifique, même à la stabilité, il faut qu'elles soient bien organisées dans des conditions appropriées. Laissons le temps à la CENI de se préparer techniquement, logistiquement et administrativement. Et ce, jusqu'en 2016. Et lorsqu'on arrivera en 2016, je pense qu'on élaborerait déjà des stratégies tant financières que matérielles pour qu'on évite cela. Je suis contre l'idée du suffrage universel indirect. Je suis également contre le report pour 2017 pour des raisons que j'ai évoquées tantôt. Et je voudrais interpeller la conscience de tout le monde. Nous sommes dans un état où les situations sont en train d'empirer. Et Frantz Fanon disait « Chaque génération a une mission. Soit elle a trahi, soit elle accomplit. » Nous avons des responsabilités devant le monde entier, devant les enfants qui viendront un jour. Nous devons être conscients de ces pays. Nous devons seuls le relever. Et si tout le monde est conscient, gouvernant comme gouverné, je pense qu'on aura fait œuvre utile. Voilà ma préoccupation, je vous remercie.
Merci beaucoup à Omar, après avoir décrit un peu la méthode électorale utilisée, que vous avez plutôt qualifiée de l'antisociale. Vous avez démontré noir sur blanc que dans un système décentralisé, il faut que la population intervienne directement dans les élections. Donc vous rejetez en bloc l'hypothèse selon laquelle il faudrait qu'on organise des élections, notamment pour les députés provinciaux et le chef de l'exécutif provincial au suffrage universel indirect. Donc là, vous trouvez que ça ne pourrait pas répondre aux exigences de la démocratie. Merci beaucoup, Omar Kigalo, d'avoir appelé de Kinshasa. 081-890-6315, c'est pour votre intervention en direct. Mangoyo, restez en ligne, et puis l'honorable Beya, gardez la ligne également. On vous accordera la parole tout à l'heure.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous revenons à vous, Jérôme Bosso, président de la Ligne Élite, Ligue Nationale pour les élections libres et transparentes. Vous avez suivi cette première série des auditeurs. D'abord, votre réaction à chaud par rapport à leurs interventions.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec nos compatriotes. Leur réaction, ça constitue l'expression du souci qui anime tout citoyen congolais, toute citoyenne congolaise, de voir le pays, son pays asseoir sa démocratie naissante face à la problématique de l'organisation des élections. On est d'accord avec les amis qui interviennent pour dire nous devons nous mettre en tête, il ne faut pas organiser les élections pour les élections. Les élections de 2011, nous avons perdu, nous avons échoué lamentablement. C'était les élections chaotiques, c'est parce que on n'a pas respecté le facteur temps. On n'a pas respecter l'aspect technique organisationnel des élections. On a privilégié d'organiser les élections politiques et non élections techniques. Si aujourd'hui nous devons aller aux élections, il y a autant d'éléments de préalables techniques auxquels il faut faire face. Pourquoi aujourd'hui il y a des débats pour l'organisation des élections locales? C'est parce que nous avons connu un retard. Nous avons connu un retard d'organiser les élections locales en 2006, tout comme en 2011. Donc ça constitue maintenant des arriérés électoraux. Et pourquoi des arriérés électoraux? Il y a un débat maintenant, parce que ce ne sont plus les élections classiques. Parce que les élections classiques, on doit se référer à la périodicité des élections. Le législateur congolais fixe le système électoral congolais à 5 ans. On doit organiser les élections à 5, après chaque 5 ans, tout comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 21, alinéa 3, parle de la périodicité des élections. Et nous n'avons pas respecté cette périodicité pour organiser les élections locales. On a commencé par les sommets, en là pas vers le bas, et on n'a pas pu atteindre le bas. Or, la loi, le pays en ce qui concerne la loi fondamentale de notre pays, la Constitution, l'article 2 parle de la décentralisation. Enfin, c'est là pour répondre aussi à notre ami Omar. Nous sommes un pays sur mode de gestion de décentralisation. Et par conséquent, il faut tenir compte de tout ce mécanisme, de toutes ces élections qui doivent se faire sur l'ensemble du territoire national. Mais ça va se faire dans quel contexte? Dans le contexte où le Congolais n'a pas un fichier d'état civil, où nous ne nous connaissons pas depuis 84. Maintenant, comment le souci, c'est de déterminer le corps électoral? Nous avons parlé quel mécanisme? C'est pas le recensement, mais on est en train de patauger pour faire le recensement. Pour votre information, les élections de 2006, de 2006, nous étions au nombre de 25 712 552 en 2006. En 2009, en 2011, nous sommes arrivés à 32 024 640. Maintenant, en 2016, nous serons à 40 millions. Et tout ça, ce sont des estimations qui sont évaluées par la révision, par le fichier électoral. Est-ce que dans le fichier électoral donne-t-il le chiffre réel pour faire les élections? Parce qu'il y a des doublons. Dans la plupart des pays, on gère les doublons, pas pour les effets passer, mais pour le garder, pour servir à des tricheries éventuelles des élections. Est-ce qu'on va s'en sortir? Maintenant, il y a le problème et la problématique du fichier électoral. Il faut l'auditer. Qui va l'auditer? Et c'est la CENI qui va être juge parti, ou bien on doit recourir sous d'autres cieux dans le pays comme le Sénégal. On a pu recourir à des firmes extérieures, à des organismes, pour auditer ce fichier encore avec les autres membres. Il faut reporter les élections en 2016. Oui, c'est aussi une des raisons. Mais attention, toutes les élections, si je dis non, si vous mettez toutes les élections faites aux élections locales, vous n'allez pas vous en sortir, mes chers amis. Parce que les élections locales nécessitent beaucoup de moyens. Parce que les élections locales vont par... vous aurez à peu près 1460 de entités territoriales décentralisées. Vous aurez 8000 groupements qui vont jouer le rôle de circonscription électorale. Et quand vous avez déjà 8000 circonscriptions électorales, en 2011, nous avons géré 169 circonscriptions de l'Assemblée du territoire national. Nous avons vu des chaos, des désordres dans l'acheminement, dans la conservation des plis de PV, des résultats. Mon cher ami, est-ce que nous avons formé les garçons spécialistes en logistique pour gérer autant de tonnes? C'est tout un problème. C'est pourquoi nous disons, on est d'accord avec vous. Quand on doit organiser les élections, qu'est-ce qui est prioritaire pour le moment, aujourd'hui? Pour résoudre quel problème? Nous avons le problème de crise de légitimité au niveau des sénateurs, des députés provinciaux, de gouverneurs et vice-gouverneurs. Donc, urgence pour nous CENI, on commence à court terme l'organisation des élections provinciales, on élue les députés provinciaux, ils vont à leur tour élire les sénateurs et de gouverneurs et vice-gouverneurs. On a déjà résolu ce problème. Et maintenant, on regarde en face. Qu'est-ce qui est encore prioritaire maintenant pour faire les élections locales? Si on met les élections locales, avec 2016, on va basculer le calendrier 2016, on ira à 2017 avec l'élection présidentielle. Or, la Constitution ne donne pas cette possibilité d'organiser les élections du président de la République après le 19 décembre 2016. Donc, on doit organiser 90 jours avant décembre 2016 en ce qui concerne l'élection du président de la République. Donc, c'est pourquoi nous disons techniquement, il est impossible d'organiser les élections locales avant élections, donc,
si je comprends bien, en 2006, tout comme en 2011, nous avons beaucoup plus privilégié les élections politiques au lieu des élections techniques. Alors, mais il y a un auditeur qui a fait une proposition, exprimé une crainte quant à la crédibilité des membres de la CENI. Alors, tout à l'heure, j'essayais un peu d'échanger avec lui par rapport à la composition actuelle, le format actuel de la CENI. Je crois que la question sur la crédibilité n'allait pas se poser aussi longtemps que nous avons déjà une assemblée plénière au sein de la CENI, chose qui n'existait pas avant.
Oui, la présence du bureau actuel, c'est le produit de la réforme électorale. Qui dit réforme électorale, nous avons tous opté pour la réforme structurelle du pouvoir organisateur des élections du SNI et la réforme législative. En ce qui concerne le pouvoir réforme structurelle, au niveau des principes, au niveau des textes de loi, nous avons voulu innover qui est la société civile au niveau de cette institution. Nous avons innové qui est un autre organe en dehors du bureau de la CENI qui doit être au-dessus de la CENI pour prendre des décisions, des orientations. C'est l'assemblée plénière de la CENI. Là, on a innové. Mais quand aux individus, on ne peut pas dire tel individu, les individus sont là. Ils peuvent passer, les institutions demeurent. Mais ce qu'on peut, la crédibilité d'un individu, d'un animateur de la CENI, dépend de trois facteurs. Premier facteur, ce monsieur qui est à la CENI doit posséder 50% de la maîtrise des techniques électorales, doit posséder 30% de la capacité de faire face aux pressions du politique et 20% de son caractère personnel. Et s'il a juste réuni le tout, et ce monsieur en posant des actes qui prouvent les contre de son comportement, de ce que l'opinion, la perception de l'opinion sur le comportement de membres, de 6 membres du bureau de la CENI, on peut quand même amener les gens aux élections. Mais la grande crainte, c'est quoi? Nous, à la société civile, nous avons voulu mener la campagne de crédibilisation du processus électoral, la campagne de reconstruction de la confiance de la population dans les élections, la campagne de l'efficacité même de la CENI. Et avec tout ce que nous avons, quand M. l'abbé Malumalu a déposé sa feuille de route à l'Assemblée nationale, nous avons assisté à un spectacle désolant de la part des honorables députés. Un groupe qui applaudissait M. Labbé, un autre groupe qui chahutait M. Et ça revient à la préoccupation d'un ami. On a brisé le consensus électoral. Quand
Pour organiser les élections comme les nôtres, les élections post-conflit, les élections non classiques, et qu'il n'y ait pas un consensus politique, même minime soit-il, mais il faudrait qu'il soit solide.
On a brisé les consensus.
Cela, nous avons dit, non, le député allait aider l'opinion à mieux reconstruire une petite confiance dans le processus électoral.
Ce
qu'ils ont fait,
donc c'est un travail qui doit être fait
vraiment anormal.
Par les politiques et aussi la société civile pour sensibiliser un peu la population. On va revenir sur ça parce qu'il y a déjà un code de bonne conduite qui a été d'ailleurs voté par une partie des politiques et d'autres qui continuent à hésiter encore. On va repasser à nouveau de l'autre côté des standards avec ingénieur Mangoyo qui est à Kinshasa d'abord, et puis on accordera la parole à l'honorable Béa qui est à Kinshasa également. Et puis enfin, donc le troisième auditeur, c'est Arsène qui est à Kikwit. Mangoyo, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Bon, monsieur Gilles, moi je crois que mes prédécesseurs et même l'invité, ils ont beaucoup dit à propos de l'organisation au niveau de la CENI. Mais moi, je voudrais seulement interpeller deux structures. D'abord, je voudrais interpeller l'Église catholique. Pourquoi l'Église catholique? Parce que, Gilles, vous savez, on parle ici parmi les conditions d'une bonne organisation des élections, il y a le recensement. Mais vous savez, Gilles, qu'en 2006, le recensement n'a pas été fait. Et qui était à la tête de la CENI? C'est monsieur l'abbé Malumalu. Et donc, moi, je constate que le pouvoir en place, la majorité, finalement, s'est rendu compte que c'était en 2006, avec M. l'abbé Malumalu, il y a eu des problèmes d'organisation. Eh bien, c'est lui, en quelque sorte, qui a allumé le feu. Eh bien, quoi de plus normal? On s'est arrangé pour qu'il revienne, pour qu'il vienne éteindre le feu qu'il avait allumé. Malheureusement, la société civile n'a pas bien capitaliser ce que notre invité vient de dire, cette innovation. Nous avons suivi. Non, là où la couleur est blanche, il faut que les gens s'efforcent de voir que c'est blanc. Malumalu est entré par effraction. Tout le monde le sait. Hein? L'Église catholique, qui est une composante, la famille religieuse à laquelle appartient Monsieur l'abbé Malumalu, ne l'a pas désigné. Tout le monde le sait. Alors, c'est pourquoi, ici, moi je suis chrétien catholique, hein, je crois que c'est mon droit en tant que fidèle catholique. Il ne faudra pas que tout le temps, Malumalu continue, parce qu'il n'est plus crédible.
Oui, non, ingénieur Mangoyo, nous devons faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. On sait comment, au fait, les élections au niveau de la société civile, comment on est arrivé à la désignation de membres du bureau, en tout cas les membres qui sont sortis de la société civile. On ne peut pas y revenir. On ne peut pas revenir sur ces débats-là parce que c'est déjà passé. Si nous revenons sur ces débats, c'est comme si on tournait dans le vide. Maintenant, nous voyons l'avenir. Qu'est-ce que vous proposez par rapport aux hypothèses proposées par la CENI aujourd'hui pour organiser les élections, hein, pour terminer ce cycle électoral entamé depuis 2006? Il y a pas mal des arriérés, comme l'a dit notre invité tout à l'heure. Mais la question sur des individus, je crois que cette matière a été déjà vidée lors des débats qu'on a organisés au niveau de l'Assemblée, lorsqu'on a organisé des choix de membres du bureau. Alors maintenant, l'heure est à l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les pires dans les jours à venir?
Mais lorsque les prémices sont fausses, de quel avenir vous voulez parler? Ou bien, vous voyez les choses avec son contraire. L'invité l'a dit, et la plupart de mes prédécesseurs l'ont dit, mais on est en train de préparer le lit de contestation, parce que ces histoires-là, ce sont des acteurs politiques qui les font. Mais vous avez suivi déjà, parmi les protestations, se trouve être la crédibilité des membres de la CENI. Vous pensez, quand on parle de la crédibilité, on fait allusion à qui? Ne soyons pas quand même, ne nous voilons pas la face. On fait allusion à M. l'abbé Malumalu. Et j'ai dit, en tant que chrétien catholique, il faut que l'Église catholique prenne ses responsabilités. Parce que M. l'abbé Malumalu n'est pas le seul expert en matière d'élection.
Voilà.
Pour l'opposition, Monsieur Gérard, je termine avec l'opposition.
Ok, allez-y.
Pour les acteurs politiques de l'opposition, qu'ils cessent de se plaindre, qu'ils cessent de crier, de nous rabattre les oreilles. Si c'est vrai, ce sont les membres de la CENI qui posent problème pour qu'ils puissent se mettre d'accord, eh bien, qu'ils commencent par retirer leurs membres, comme l'a dit un acteur politique de l'opposition, dont je cite le nom, je crois que c'est Mabanga, qui a dit qu'ils posent des actes, c'est-à-dire demander à leurs représentants qui sont là de se retirer. Et puis, on essaie de remettre la crédibilité, et puis on y va avec des élections.
Voilà, Mangoyo, l'histoire, on sait tout de même que l'histoire danse.
Crier, qui retire d'abord le membre, et on verra ce qui va arriver après.
Voilà, la politique de la chaise vide, je crois que nous avons tous eu le temps de décrier cette politique. Merci d'avoir parlé, Général Mangoyo, et d'avoir fait ces propositions. Et je crois que ça suscite quand même le débat, ça réchauffe les débats, hein, dans le sens comment faire en sorte qu'on puisse vraiment être dans la vie politique et aussi éviter chaque fois de procéder à la politique de chaise vide. Merci beaucoup, Général Mangoyo. Honorable Béya, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, mes chers amis. Et j'en profite pour, avant de commencer, je vais dire bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Et je saisis cette occasion aussi pour saluer en même temps tous mes électeurs du territoire d'Endemba, à qui je présente les meilleurs vœux de l'année 2014. Chers amis, je vous dis que tout ce qui se passe au niveau des élections, ce n'est que du sophisme. Il ne peut pas y avoir des élections locales si on n'a pas un gouvernement responsable. Les élections locales est une affaire d'un régime en confiance avec son peuple, d'un gouvernement responsable. On aurait pu organiser ces élections locales en 2006, quand nous avons été élus députés. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, si on veut le faire, avec tous les arguments qu'on avance, c'est du sophisme. Ce n'est pas pour rien que nous, les facs.
Donc, honorable Béa, s'il vous plaît, honorable Béa, si on peut aller droit au but, c'est-à-dire nous faire des propositions par rapport à la question que nous avons posée. C'est vrai qu'aujourd'hui, la feuille de route a été proposée avec des hypothèses, bien entendu. L'opposition rejette tout en faisant aussi des propositions. Alors vous allez vers quelle hypothèse?
L'hypothèse est celle-ci. Comment vous pouvez parler des élections locales? Dire les élections locales, ça veut dire les groupements. Les groupements, il faut les connaître, ça veut dire l'organisation du pays. Or, au moment où je vous parle, chaque député a son groupement en poche. Chaque ministre a son groupement en poche. Mais de quel groupement s'agit-il maintenant? Il faut d'abord mettre de l'ordre de ce côté-là. Parce que vous imaginez, si au niveau des élections législatives, par exemple, pour ne donner que cet exemple, parce que c'est cela qu'on a déjà fait, si à ce niveau-là, vous avez une liste qui tombe parce qu'il y a un candidat qui n'est pas en règle avec les lois en la matière, mais si la même chose se passe au niveau du groupement, ça va poser déjà des problèmes au niveau du groupement. Si, par exemple, un candidat est contesté, ou deux au niveau du groupement, et ce sont ces candidats-là qui ont été présents.
Alors, vous proposez quoi, honorable?
Honorable, ça pose problème au niveau de la population de ces groupements. Veut-on opposer la population au niveau des groupements pour que le feu prenne et qu'on se dise, écoutez, maintenant on vient là en sapeur-pompier, et puis finalement on se retrouve 10 ans, 20 ans, sans qu'on ait des élections dans ce pays. Donc, c'est du sophisme.
Donc vous proposez qu'on aille vite dans le processus de décentralisation de notre pays, donc la matérialisation de ce régime. Donc je crois que ça pourrait aider quand même l'organisation des élections, hein, dans un format. Oui, vous proposez rapidement, honorable.
Il faut qu'on consolide le pays au niveau du régime, au niveau de la confiance qu'on doit avoir avec celui qui dirige le pays. Il faut qu'on ait un gouvernement responsable, qu'on termine d'abord les élections présidentielles, qu'on termine les élections législative et que cette histoire des élections locales se fasse au moment où tout le monde se sera mis d'accord. Vous savez que nous avons eu des élections chaotiques et voulues pour cela, pour pouvoir pérenniser le régime en place. Et on ne peut pas aller aux élections locales comme ça, avec cette
voilà.
vision...
Donc voilà, merci beaucoup honorable. Merci beaucoup. Donc je crois que les arriérés voilà, merci beaucoup honorable Béa d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Arsène qui est à Kikwit et on va terminer cette deuxième série avec Evariste à Lubumbashi. Arsène, bonjour.
Bonjour monsieur JR.
Oui, rapidement, il faut être précis, ce que les autres n'ont pas pu proposer, on peut aller directement par rapport à ça et puis bon faire juste un petit commentaire par rapport à l'actualité.
Bon, moi je dirais ceci. Je dirais qu'il y a trop de complaisance dans ce que nous sommes en train de faire ici chez nous au Congo. Des fois, ça devient honteux, ça devient gênant de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous devons aller aux élections. Ça, c'est une obligation. Mais quel type d'élection et quel genre d'élection? Pour moi, en tout cas, le problème des moyens ne se pose pas. Il y a assez de moyens ici au Congo, on peut trouver le moyen. On commence, d'abord... réaliser ce qu'on appelle les recensements. On doit le faire obligatoirement, parce que nous aurons à partir des recensements le nombre exact des électeurs, parce que nous commençons par les élections de base, à partir de la base. Deux, nous devons avoir un fichier électoral renouvelé. De trois, nous devons avoir la crédibilité incontestable des animateurs de ces élections. Et de quatre, nous devons respecter le délai. Pour respecter toutes ces alternatives-là, en tout cas, il faut qu'il y ait de la confiance au Congo. Nous devons avoir la confiance au Congo, qu'on ne cherche pas à rester au pouvoir ou chercher à aller dans le pouvoir par des moyens malhonnêtes. Moi, à voir tout ce qui se passe, je trouve qu'on est en train de préparer une bombe qui risque d'éclater au jour le jour. Donc, pour moi, les élections, on doit le faire, mais faisons-les correctement et suivons un peu la normalité des choses, comment ça se passe.
Voilà, merci. Tergiverser
et mentir à la population, préparer une catastrophe à venir.
Merci beaucoup, voilà, Arsène. Vous rejoignez d'ailleurs notre invité qui parlait tout à l'heure des élections techniques et non des élections politiques, hein, parce que là, ça pourrait aider vraiment les pays à aller de l'avant. Merci beaucoup, Arsène. Évariste, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue dans cette émission, vous avez votre point de vue.
Je suis très ému de toutes les propositions faites par mes prédécesseurs dans cette émission. Et tout ce que je vais demander à la radio Capi, je voulais avoir fait vraiment merci pour ce genre d'émission. Nous avons organisé ce genre d'émission depuis 2011, 2010, aujourd'hui on est en 2014. Et je pense que ceux-là qui nous écoutent, qui sont à la gestion des affaires dans ce pays, tout ce que je demande à la radio pratique, c'est de prendre les enregistrements de toutes les émissions liées à l'organisation des élections dans ce pays et remettre à tout un chacun ses cassettes qu'ils suivent les propositions venant du peuple congolais. C'est très, très important. Et ce que je peux ajouter encore de plus, puisque je n'ai rien à dire, je pense que nous avons toujours fait des propositions de cette émission et tout ce que nous constatons, personne ne nous écoute. Demain, M. JR, vous allez encore organiser ce genre d'émission. L'année prochaine, toujours des années, et les gens ne nous écoutent pas. Et tout ce que je peux dire, c'est quoi par rapport au recensement. On va nous faire venir les Chinois qui ne connaissent pas bien la RDC. Je fais une proposition technique et simple. Est-ce qu'on ne peut pas les faire, commençant par chaque avenue? On nomme un chef d'avenue à qui on remet les fiches, une fiche. Et chaque chef d'avenue doit aussi rétrocéder, soit remettre cette fiche à un chef de quartier. Le chef de quartier à un chef, qui ne sait pas, un bourgmestre, et ainsi de suite. Et vous ne trouvez pas cela peut nous prendre un mois, deux mois pour avoir le nombre exact des Congolais de ces JR.
Merci beaucoup, Évariste. Je crois que dans la démocratie, on n'arrête pas de parler, on fait toujours des propositions. Si aujourd'hui on est arrivé à la réforme même structurelle de la CENI, c'est grâce peut-être à des débats, à la participation des auditeurs et aussi la société civile qui a au fait des plaidoyers. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, le résultat est là. La CENI, dans sa composition actuelle, il y a l'Assemblée plénière. Vous avez eu à proposer ça dans cette émission. Au cours de cette émission, il y a eu des débats par rapport à ça. Donc, bref, nous pouvons dire que quelque part, il y a des gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, Évariste, d'avoir appelé de Lubumbashi. Marcel, on va vous accorder la parole dans un instant. Il est temps pour nous de revenir à vous, à Jérôme Bosso. C'est vrai, vous avez encore suivi cette deuxième série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Non, vous voyez, tout tourne autour de moyens.
Et pourquoi on se pose la question, pourquoi les élections congolaises de 2006-2011 ont coûté autant de millions? N'y a-t-il pas moyen de faire des élections à moindre coût? Parce que le président de la République, quand il s'est adressé à l'Assemblée, au Parlement, réuni en congrès au Palais du Peuple, il a dit « Je suis d'accord, j'opte pour le scrutin suffrage universel indirect pour l'élection des députés provinciaux à cause de moyens. On doit réduire. » Mais nous disons ceci. Quand M. Labbé a présenté sa feuille de route, il a dit « Écoutez, il y aura 75 rotations d'avions qui viendraient de l'Afrique du Sud avec les bulletins de vote ici au Congo et les dispatchés. » Nous disons, ce même machine qui fabrique le bulletin de vote en Afrique du Sud, nous en avons une ici au Hôtel de Monnaie. Il peut nous fabriquer de bulletins, même sécurisés à moindre coût. Parce que le problème ne se pose pas parce que c'est sécurisé. En 2011, nous avons commander des bulletins sécurisés en Afrique du Sud et nous avons trouvé des bulletins précochés. Nous avons assisté à des fraudes massives des élections avec le même bulletin qui était sécurisé. Donc le problème qui s'est à ce niveau-là, c'est le problème de confiance. On dit on fabrique le bulletin ici chez nous. On peut avoir l'encre indélébile qu'on importe. On va le faire, on va confier à l'université de Kinshasa avec sa faculté biochimie. Faites-nous l'encre. Les urnes avec les sociétés de plastique ici, on nous fait des urnes adaptées aux standards internationaux des élections démocratiques. Nous avons réduit les coûts. À ce moment-là, nous pouvons nous en aller. Mais je répète à nos compatriotes, planifions les élections en termes d'urgence. Qu'est-ce qui est urgent pour nous? Ce qui est urgent, c'est mettre fin à la crise de légitimité des sénateurs, des députés provinciaux, des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et par conséquent, demandons à la CENI d'opter une option. Ce n'est pas la CENI maintenant, parce que quand la CENI a présenté sa feuille de route à l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui va maintenant former des recommandations qu'il va donner à la CENI. Voilà pour nous, nous levons l'option d'organiser les élections députation provinciale au suffrage universel direct, sans pour autant énerver l'article 197 de la Constitution. Nous vous demandons de les organiser et les autres, on met le moyen à votre disposition et nous allons. Mais l'inquiétude qui est la nôtre, c'est de savoir comment la CENI va s'en sortir quand on va faire des élections, parce que vous demandez à la CENI de faire des élections locales. C'est une expérience, c'est une première expérience. La CENI n'a pas la capacité de gens qui sont outillés en logistique pour faire les élections locales. Il y a autant, 8000 sous-groupements. 8000 groupements. Il y aura aussi d'autres groupements fictifs. J'ai un interrogatoire dit, il y aura chaque candidat à son groupement. Ça va s'étendre en circonscription électorale. Nous serons, nous, en mesure de le faire. Et aussi, comment transmettre les résultats électoraux. Nous avons vu ce que ça a donné à la FIKIN. Mais nous avons dit à la CENI, il faut supprimer les centres locaux de compilation. Il faut supprimer. Il faudrait que les résultats tombent de façon instantanée et pas directe, en temps réel, au bureau direct. Parce qu'à partir de ces centres, c'est là où on fait des choses. Et aussi, il faut décentraliser la gouvernance électorale. La CENI ne doit pas demander que tout ce qu'on fait, qu'on puisse lui envoyer ici. Non, il faut décentraliser dans chaque groupement, dans chaque bloc. Quand on affiche les résultats, on prend acte de ces résultats, pas question de dire consolider. Vous allez consolider quoi? Vous allez consolider quoi? Donc, il faut mettre fin à ces pratiques anciennes pour que nous puissions assister et respecter les trois fondamentaux des élections démocratiques. Premier fondamental, c'est la transparence, l'efficacité et la crédibilité. Si aujourd'hui tout le monde doute de la crédibilité du processus électoral, doute de la crédibilité des animateurs, comment la CENI peut aussi s'investir à reconstruire la confiance de la population dans les élections en posant des actes que le peuple, la population puisse se retrouver pour dire à la main, on peut vous pardonner et allons de l'avant. Parce que la politique de mettre toi et la vache, non, ça va encore nous reculer, ça va affaiblir notre démocratie naissante. Voyons, essayons ensemble avec l'institution nationale pour consolider notre processus démocratie électoral.
Alors, Marcel va terminer avec nous. Marcel, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez juste une minute, Marcel.
Oui, merci, parce que mes prédécesseurs ont tout dit. Mais ce qui étonne, c'est quoi? C'est l'inconstitutionnalité de la feuille de route de M. Maluma. Vous comprendrez avec moi que c'est comme si dans ces pays, il n'existait pas de loi. Or, nous avons la constitution et nous avons la loi électorale. Et la proposition faite par le président de la République n'a pas force d'une loi. Ça, on doit comprendre. Il s'est adressé lors des concertations nationales, des assises, et voilà, il y aura ceci, les élections indirectes, tout ça, des députés et consorts. Mais cela ne se traduit pas automatiquement en une loi. Donc, M. Malumalu n'avait qu'à présenter sa feuille de route sur base des lois que nous avons actuellement. Si la proposition faite par Kabila avait été prise en compte par les honorables députés, qui est le législateur, qui constitue le législateur congolais, et qui pourrait peut-être dans l'avenir rendre ça effectif pour que ça devienne une loi. C'est dans l'avenir qu'il y aura une telle démarche. Donc voilà déjà l'idée manifeste de M. Malou Malou qui trouve à l'opinion nationale et internationale qui n'est pas légaliste puisqu'il présente sa feuille de route sur base d'une loi hypothétique qui n'est pas encore une loi et qui est une proposition faite par un président de la République. Ça, en tout cas, ça traduit déjà sa mauvaise intention, d'où la nécessité d'approuver ceux qui disent qu'il n'est pas, qui se pose un problème de crédibilité dans son chef.
Merci beaucoup, Marcel. Alors, en conclusion, Jérôme Bosso, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à cette feuille de route? Donc, on va attendre que l'Assemblée nationale se prononce quant à ce. Qu'est-ce qui va se passer après?
À sa session de mars 2014, l'Assemblée nationale va formuler des recommandations à la CENI. Parce que maintenant, ce n'est plus la CENI qui va encore faire quoi que ce soit. La CENI va attendre les recommandations à partir de sa feuille de route où nous te souhaitons, nous avons formulé et à la CENI, à l'Assemblée nationale, de prioriser les actions électorales. Mettre, un, l'organisation des élections à court terme, l'organisation des élections des députés provinciaux à court terme pour mettre fin à la crise de légitimité. Deux, mettre de moyens suffisants, donner à monsieur, à la commission électorale l'argent qu'il a demandé pour 2014, 350 millions de dollars, les disponibiliser. Trois, chaque responsable, le gouvernement, le parlement, tout le monde puisse s'atteler, respecter le timing demandé par M. Labbé, qu'on puisse mettre de l'argent à sa disposition. L'autre point, c'est quoi? C'est que le parlement doit nous aider à reconstruire le consensus électoral pour que les uns et les autres puissent se retrouver dans ces élections, qu'on ne puisse pas imposer la date, imposer quoi que ce soit, pour que nous puissions nous en sortir.
Jérôme Bosso, vous êtes le président de la LINELITE, entendez par là, la LINELITE nationale pour les élections libres et transparentes. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci.
Allô? Mais ils ne répondent pas.
On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de cette émission, côté des Pierrot qui l'a réalisée. Cette émission vous a été présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. On se retrouve demain, donc d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.